IDFM, c'est 24 heures de programme, 7 jours sur 7. IDFM, ça change de la radio.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Écolo d'IDFM Radio, Mission Verte. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h30 en ce jeudi 24 novembre. Nous avons comme invité Xavier Mathias pour le potager d'un rêveur. On retrouvera l'autrice Marie Pavlenko qui va nous parler de l'environnement, de l'écologie à travers ses écrits. Merci à Francky pour la technique. On se retrouve juste après ça avec nos invités. À tout de suite.
Déjà dans le fond de la classe, j'étais loin dans mes pensées. Qu'est-ce qu'on va faire de toi était la question qu'on me posait. Quand je marchais de travers, et c'est ma manière à moi, j'étais pas toujours rendu fier, mais je suis né comme ça. Et j'en ai fait qu'à ma tête, j'ai chanté des hauts, et j'en ai pris plein la tête, j'ai courbé le dos. Mais deux accords de guitare, et des va-et-via, oui des va-et-via, et la vie t'est maravilla. C'est ça. Habita vela, c'est ça. Habita vela, c'est ça. Habita vela, c'est ça. Habita vela yo. Habita vela, si mamá. Habita vela yo. Que vela, la vida vela mamá. C'est ça. Habita vela, c'est ça. Habita vela, c'est ça. Habita vela, c'est ça. Habita vela yo. Habita vela, si mamá. Des CV, mais c'est l'aventure qui m'attendait. Assis derrière un bureau, je me serais mis en danger. Mon cœur a sur mes arrières, des rêves ont misé sur moi. Si tu savais comme je suis fier quand je leur prête ma voix. Et j'en ai fait qu'à ma tête, j'ai chanté des hauts, et j'en ai pris plein la tête, j'ai courbé le dos. Mais deux accords de guitare et des va-et-via, puis des va-et-via, et la vie t'est maravilla. C'est ça. Habita vela, c'est ça. Habita vela, c'est ça. Habita vela, c'est ça. Habita vela yo. Habita vela, si mamá. Habita vela yo. Que vela, la vida vela mamá. C'est ça. Habita vela, c'est ça. Habita vela, c'est ça. Habita vela, c'est ça. Habita vela yo. Habita vela, si mamá.
Xavier Mathias, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté mon invitation pour parler de votre dernier ouvrage, Le potager d'un rêveur. On vous doit déjà Le potager d'un frimeur. Et aujourd'hui, vous nous faites rêver à travers votre potager, mais à travers tout ce qu'offre la nature de bon et de beau. Et on voyage littéralement avec votre ouvrage qu'on retrouve aux éditions Terre Vivante. D'ailleurs, on va commencer peut-être un mot par celles et ceux qui ont travaillé avec vous sur les photos, parce que les illustrations sont assez magiques. Je peux les nommer: Laurent Bessol, Arnaud Ville, Virginie Kéan, Luc Monet. Il y a aussi François-Régis Gaudry, hein, qui a fait la préface.
Il y a Laurent Bessol aussi, hein, qui est très important pour la photographie.
Et on découvre ainsi donc votre potager, mais pas que. Hein. Il y a des très beaux gros plans sur sur ces légumes qui font rêver et qu'on découvre ou redécouvre pour celles et ceux qui sont en ville et qui n'ont pas cette culture hein, du potager. Alors, est-ce que déjà vous pouvez nous rappeler votre parcours, comment vous êtes arrivé à avoir ce potager?
J'ai un parcours un petit peu atypique parce que alors moi je suis du monde agricole rural, hein, mes parents étaient viticulteurs en Touraine et puis j'ai passé un bac A2 à l'époque, elle maintenant je crois. Je me destinais à faire la fac et puis j'ai fait 3 mois à la fac, je supportais pas en fait. Donc j'ai fait plein de petits boulots à droite à gauche dans l'agriculture jusqu'à découvrir un jour les légumes et avoir cette chance de me sentir à ma place immédiatement quand j'ai découvert les légumes. Mais juste dans mon parcours, je n'ai aucun diplôme agricole ou quoi que ce soit.
Vous avez donc appris sur le tas et ouais. Vous avez vraiment découvert aussi un patrimoine assez incroyable, hein, parce que avec le XXe siècle, on a presque oublié ces métiers de maraîchage. Ils ont presque disparu.
Pour
les grandes villes, on a l'impression qu'ils ont disparu. En tous les cas, en région parisienne, ils se comptent sur les doigts de la main, alors qu'avant, ils étaient à Argenteuil, à Montreuil, etc. Alors qu'aujourd'hui, on a l'impression que pour avoir des fruits et légumes locaux, il faut quitter la région parisienne presque.
Ben oui, vous avez complètement raison. On peut pas avoir les deux, c'est-à-dire des cinémas, des salles de spectacle, beaucoup de bâtis d'immobilier, des bureaux, et puis des légumes. Les deux sont pas, on peut pas faire les deux. Alors après, néanmoins, là, moi, ce qui me fait très plaisir, c'est de voir cette espèce de résurgence là en ce moment d'agriculture dite urbaine. Et là, je pense qu'il y a beaucoup d'espoir de ce côté-là. Je pense que on a vécu quelques mauvaises décennies qui correspondent, vous savez, cette drôle d'époque là qu'on appelle de manière presque obscène. On l'appelle les 30 glorieuses, que c'est pas glorieux du tout, hein, ce qu'on a fait pendant ces décennies-là. Là, enfin, on est en train d'en sortir. Et je trouve que en région parisienne, aussi, était vraiment flagrant la volonté de tous ces jeunes. Beaucoup, moi, j'ai donné des cours à l'école du Breuil en agriculture urbaine. Beaucoup sont très diplômés, mais voilà, en ont ras-le-bol des tableurs Excel et reviennent vers quelque chose de plus terre à terre, on va dire.
Et ce qui est formidable, donc dans cet ouvrage, mais pas que, parce que on peut le dire sur votre site xaviermathias.com, on découvre que vous proposez des ateliers, des formations, de l'accompagnement à des projets, des conférences. Vous avez également une chaîne YouTube. Bref, vous êtes un peu sur tous les fronts, et donc on peut dire qu'aujourd'hui, c'est pas ringard. Au contraire, ça revient à la mode. On a envie de remanger bon. Et bio, enfin bio, je mets entre guillemets, parce que on découvre aussi hein, dans votre ouvrage que finalement, si on fait les choses correctement, c'est naturel.
Voilà. Moi, je pense que l'appellation bio, elle est plus tellement. Enfin, c'était inventé dans les années 60 dans un monde donné. Ce monde, il a changé. Effectivement, maintenant, il faudrait peut-être qu'à notre tour, comme nos géniaux prédécesseurs, hein, vraiment, hein, mais qu'à notre tour, on aille un petit peu sur autre chose. Bio n'est plus suffisant. Mais voilà, on est en train d'évoluer, d'avancer. Bio a été récupéré effectivement énormément par la grande distribution et c'est devenu un petit peu trouble.
Il y a toujours des opportunistes et même si on a des bonnes intentions, il y a toujours des gens plus malins. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on découvre aussi dans votre manière d'échanger, de partager sur vos réseaux sociaux. Vous évoquez les bassines dont on parle depuis quelques semaines. Ce sont des comportements assez hors normes, idiots. Enfin, vous avez des mots justes qui nous rappellent que le bon sens paysan, malheureusement, même chez les agriculteurs, il est peut-être parti avec l'économie.
Ah oui, je vais être très sévère, parce que moi, je vis au milieu. Hein. Je suis à la campagne. Donc, je vois le carnage des paysages. Et oui, effectivement, le bon sens paysan, c'est pas chez les agriculteurs qu'on le retrouve. Ça, c'est évident. J'aurais même tendance à dire, ce serait bien que les agriculteurs, on leur interdise la campagne, quoi. Parce qu'ils nous la bousillent. Vraiment. Et c'est dur, quoi. C'est pas drôle. Moi, je traverse pour arriver à la maison. Hein, je traverse un plateau pseudo-céréalier. Je vous assure que c'est terrible à voir. Là, si vous voulez voir des champs orange parce que passé au glyphosate, c'est le moment. C'est la saison. Venez en Touraine. Vous êtes cordialement invités. Vous allez voir ce que c'est que du glyphosate, du Roundup. Hein. Voilà, alors qu'est-ce qu'on fait au bout d'un moment, on est un petit peu fatigué de tout ça. Voilà, et donc c'est pour ça que moi je trouve que c'est très important cette activité de jardinage, cette passion, ces amateurs au sens noble qui à eux tous cumulent aussi des milliers d'hectares en fait, hein, quand on prend tous les jardins. Oui. Et grâce à eux, grâce à tous ces jardiniers amateurs, on a une vraie diversité, on a des espaces de respiration.
Et c'est ce qu'on découvre notamment dans votre ouvrage du potager rêveur. On part découvrir hein, ces miracles de la nature hein, que sont de ces petites graines. On découvre des légumes au milieu d'une couleur et au goût formidable. Hein, même si souvent, des fois, la forme donne plus à rêver que le goût. On en parlera peut-être pour le chou de Bruxelles, mais c'est très très bien amené. Là, on va arriver. Là, on est vraiment au cœur de l'automne, même si les températures ne font pas toujours penser. Il y a un chapitre sur l'hiver. Vous rappelez que l'hiver, c'est vraiment la meilleure période pour rêver ?
Oui, c'est la meilleure saison pour les légumes. C'est la vraie saison des légumes. Alors, je ne parle pas des fruits très, très agréables qu'on a en été. Hein. Tomates, poivrons, aubergines, etc. pour l'été, le début de l'automne. Je parle de légumes plus roboratifs. Et effectivement, en hiver, panais, persil tubéreux, salsifis, corsonnerre, carottes, betteraves, etc. La liste est très très longue de tout ce qui peut nous régaler.
Et en plus, c'est plein de couleurs. Ça remplit les cuisines de bonnes odeurs. Et puis, comme vous rappelez, c'est bon, ça tient au corps, c'est plein de nutriments. Et ça nous permet de rester en bonne santé. Quoi ajouter de plus ? Votre ouvrage, on peut le découvrir en librairie. On peut aussi le découvrir sur votre site, xaviermathias.com, le commander, en tout cas, se rapprocher de vous pour retrouver donc les références. Et puis, on va découvrir que vous êtes auteur aussi d'autres ouvrages, comme Au cœur de la permaculture, l'encyclopédie Flammarion du potager, la vie érotique de mon potager, le potager d'un frimeur et maintenant le potager d'un rêveur. On va vous souhaiter plein de bonnes choses. Xavier Mathias, merci encore à vous d'avoir partagé ces quelques minutes pour parler de votre passion du potager, de votre passion pour la nature. C'est un ouvrage également, j'ai oublié de le préciser, qui est sorti aux éditions Terre Vivante. Merci à vous Xavier, à bientôt.
C'est moi qui vous remercie. Merci, au revoir à tous.
Donut spécial, un peu mystique. Je sais pas trop d'où tu viens, peut-être d'Amérique. Donut spécial, t'as des pouvoirs magiques. Tu plais aux garçons, tu fais de l'effet aux filles. Oh, 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 parfum exotique. Oh, oh, Donut, quand tu tournes sur la piste. Belladonna, ne m'en veux pas, non. Je préfère rester là. J'ai plus les idées claires quand je te vois. Belladonna, ne me teste pas. J'ai eu ma dose, je crois. J'ai d'autres choses à faire que de penser à toi. reste pas. J'ai eu ma dose, je crois. J'ai d'autres choses à faire que de penser à toi, Belladonna.
Nous retrouvons Marie Pavlenko, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, on le rappelle, vous êtes autrice de nombreux ouvrages, dont Charamba, Hôtel pour chat, paru aux éditions Flammarion Jeunesse, un travail que vous avez fait avec Marie Voyelle. Mais vous êtes aussi là pour parler d'un vrai intérêt, d'un vrai investissement sur l'environnement, la protection de l'environnement, sur l'écologie, et notamment avec d'autres ouvrages comme « Et le désert disparaîtra ». Et c'est pour ça que j'ai voulu vous inviter dans Mission Verte pour parler de votre côté citoyen engagé autour de thèmes qui sont de plus en plus prégnants hein, dans notre société. Alors déjà, est-ce que vous pouvez dire pourquoi vous avez eu cet intérêt ? Est-ce que c'est quelque chose qui remonte à très longtemps, cette envie de parler de votre intérêt pour la planète ?
Alors, écoutez, oui, ça fait très longtemps que je suis sensibilisée aux questions écologiques en général, que je lis des articles, que je me renseigne, que je connais le GIEC. Enfin, j'ai une appétence pour ce sujet parce que je pense que c'est un sujet qui est très très grave, qui nous concerne tous. D'ailleurs, qui nous concerne tous, humains et non humains. Hein, tout le vivant de cette planète est concerné. Par cette problématique. Et je crois que c'est un sujet qui devrait être à la une de tous les journaux, de tous les journaux télévisés, de toutes les radios, de toutes les émissions, par sa gravité et son importance. Or, c'est un sujet qui est vraiment mis de côté. C'est quelque chose qu'on peut voir notamment dans les interviews politiques. Hein. Rares sont les journalistes politiques qui interviewent avec une vraie connaissance de ces thèmes les femmes et les hommes politiques. Et donc voilà, ça remonte à très longtemps, mais c'est vrai que pour moi, il y a eu une bascule très forte en 2015 où je me suis intéressée à l'ornithologie et en fait, ce lien et cette connaissance de plus en plus approfondie avec le vivant a fait que j'ai pris encore plus conscience de sa beauté, sa fragilité, sa richesse, et que du coup, c'est vraiment un sujet que voilà, okay, sur lequel je me penche régulièrement, soit de façon frontale, soit en périphérie, c'est-à-dire que dans Et le désert disparaîtra, c'est de façon frontale. Dans un roman comme Un si petit oiseau, c'est plus en périphérie, mais c'est là quand même.
Oui, parce que vous voulez vraiment amener de la manière dont on, justement, vous le rappeliez, on n'en parle pas assez transversalement à travers tous les grands sujets. L'écologie, ça doit être partout, tout le temps. La protection de l'environnement, la protection du vivant. Et c'est pour ça que vous, justement, c'est le fil rouge de vos ouvrages. Et notamment, dans la littérature jeunesse, c'est très important que les plus jeunes aient accès à ces thèmes.
Alors, c'est important pour plusieurs choses. D'abord, on protège ce que l'on aime. Et on aime ce que l'on connaît. Aujourd'hui, il est important que l'enfant, l'adolescent, mais l'adulte aussi, hein, soit conscient du monde dans lequel il vit, dans lequel il évolue, et de sa diversité, de sa fragilité, de sa beauté, etc. Et je pense que la littérature, elle a un vrai rôle à jouer là-dedans. Par ailleurs, les sujets en lien avec l'écologie sont encore très très mineurs. On a un imaginaire foisonnant concernant les virus, par exemple, hein, qui sont véhiculés notamment par les zombies, etc. Donc il y a eu pléthore de romans, pléthore de séries, pléthore de films depuis des années. Et ça charrie un imaginaire collectif qui est assez puissant. Mais sur l'écologie, Et sur le vivant, on est très 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 loin d'avoir construit un imaginaire collectif et global autour de ça qui pourrait permettre cette conscience, hein, cette conscience voilà, en permanence. Et puis il y a autre chose qui est plus particulier à la littérature jeunesse, c'est que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, ce qu'on appelle pudiquement la crise climatique, mais qui en fait est l'effondrement du vivant autour de nous, elle a comme conséquence que les enfants d'aujourd'hui ne savent pas grandir dans un monde en fait où il y a déjà énormément d'insectes, d'oiseaux, d'arbres, de plantes qui ont disparu. Hein, il y a une fameuse étude qui a été menée en Allemagne qui montre qu'en Europe depuis les années 90, donc depuis le moment où on a utilisé des pesticides et notamment ce qu'on appelle des néonicotinoïdes, depuis les années 90, il y a 75% des insectes et des arthropodes qui a disparu. Donc les araignées, les petits insectes, les coccinelles, tout ça. 75%, c'est les trois quarts. Ils sont plus là, en fait. Notre monde vrombit moins, notre monde bouge moins, notre monde s'est appauvri. Or, les enfants qui ont grandi après cette date, ils se rendent pas compte. Ils voient pas qu'on leur a volé quelque chose, qu'on continue de leur voler, parce qu'on réautorise toujours ce genre de molécules qui tuent peu à peu le monde, par exemple. Et le pouvoir de l'imaginaire, de l'imagination, le pouvoir de la littérature, il peut être aussi là, c'est-à-dire de faire prendre conscience de ce qui est perdu, mais ce qui peut être reconstruit, mais en revanche, il faut une volonté. Donc c'est le rôle de mémoire aussi de la littérature qui peut être en jeu.
Et justement, la littérature peut faire partie hein, des solutions. Celles que l'on voit aujourd'hui, ces activistes qui interviennent dans des musées en jetant de la purée sur des grandes œuvres, est-ce que c'est quelque chose que vous compreniez, sans cautionner, mais que vous compreniez ? Après tout, ils n'ont pas beaucoup d'armes
C'est ça qu'ils n'ont pas beaucoup d'armes, c'est qu'ils n'ont pas entendu. Bien sûr, je les comprends, je les soutiens même du fond du cœur. En fait, ces jeunes gens, parce que c'est souvent des jeunes gens, ils nous interrogent sur est-ce que vraiment une peinture est plus importante que le vivant aujourd'hui sur toute la planète ? Et je vais vous dire très clairement, pour moi, la réponse est non. Pour moi, la réponse est non. C'est-à-dire que la priorité de tous les politiques et toutes les politiques, c'est-à-dire de ce qui doit être mis en œuvre, c'est aujourd'hui de protéger le vivant, d'empêcher les grandes entreprises pétrochimiques d'aller défoncer les derniers coraux, d'aller ravager les terres en Ouganda, comme c'est le cas pour Total aujourd'hui. Donc, ces jeunes, ils nous interpellent en plus de façon extrêmement quiette, puisque à chaque fois, il y a une vitre en verre et qu'il ne se passe rien. Je vous rappelle que les suffragettes, elles ont commis de multiples attentats. Hein. Il y a eu une chronique dans Le Monde à ce propos, pas très longtemps. Elles ont dilacéré des œuvres. Alors là, à coup de couteau ou de cutter, elles ont posé des bombes.
Oui, il y avait plus de violence.
Elles ont obtenu le droit de vote.
Oui, et effectivement, on peut imaginer aussi que nous, à notre échelle, ça à nous aussi d'être des consommateurs, comme certains disent, c'est-à-dire on fait attention à ce qu'on achète, on achète moins, on change de logiciel.
Oui, alors ça c'est une étape, j'allais dire, qui est simple, mais qui est facile à faire. Il est facile aujourd'hui de se procurer des vêtements de seconde main de très bonne qualité, il est facile de se procurer objets ménagers, électroménagers, électroniques de très bonne qualité de seconde main. On peut moins consommer, c'est très simple. Après, je pense qu'on fait peser sur l'individu une décision qui ne devrait pas l'être. En fait, ce qui devrait être mis en place, c'est des politiques très fortes. C'est le rôle des hommes et des femmes politiques aujourd'hui de prendre des décisions pour la cité, pour l'ensemble des gens qui vivent ensemble. Et c'est à eux d'impulser en fait les changements. C'est trop facile de dire aux gens éteignez les lumières et dépensez moins de chauffage quand on laisse faire des grandes entreprises ou quand on voilà. C'est pas possible en fait. Il y a un truc qui est très culpabilisant et je pense que c'est pas comme ça qu'on arrivera à faire changer les mentalités.
Alors, qu'est-ce que vous pourriez dire à nos amis auditeurs? C'est de rester quand même optimiste.
De rester optimiste, ben de moins en moins quand même. Je ne sais pas si vous avez conscience de l'été qu'on vient de passer. Oui. On vient d'avoir des forêts brûlées, beaucoup de milliers d'hectares. Et ce qu'on nous propose, c'est de replanter des conifères qui sont donc inflammables très facilement. Il n'y a pas de politique de la forêt, par exemple. On sait que c'est très important, de politique des zones humides, voilà. Donc je ne sais pas s'il faut être optimiste. En revanche, il faut être vigilant. Et on est vigilant en luttant, en votant pour des gens qui défendent le vivant à son échelle. On est vigilant en plantant, on est vigilant. Il y a plein de façons d'être vigilant. Pour moi, une des premières façons, c'est de résister à la société de consommation telle qu'elle nous matraque, c'est-à-dire dans son message qui est de nous faire croire que avoir et posséder, c'est le bonheur. En fait, c'est un message qui est mensonge. Déjà, prendre conscience de ça et donc faire...
Eh bien, on a pris
note. La société essaye de nous emmener. C'est un bon début, je crois.
Et effectivement. Eh bien, merci Marie Pavlenko. On rappelle, vous êtes l'auteur de Chat en bas. C'est une Hôtel pour chat. C'est une série parue aux éditions Flammarion Jeunesse que vous avez coécrit avec Marie Voyelle. Le dernier titre, c'est Félin pour l'autre. Là encore, oui. Vous mettez des animaux en scène. C'est aussi pour montrer que aux jeunes lecteurs, d'une manière assez tendre, que nos amis à quatre pattes sont importants.
Bah, c'est une façon d'introduire un petit peu d'humour et de parler de choses un petit peu plus profondes, et notamment de liens les uns aux autres, de tolérance, de harcèlement. Ça, parler des chats, c'est mettre des lunettes, mais c'est parler des hommes, en fait, bien sûr.
Et c'est donc destiné aux jeunes lecteurs qui ont à partir de 10 ans, à peu près, un peu moins.
7-8 ans, 7-8 ans. 7 ans quand on est bon lecteur, et sinon plutôt 8 ans.
Très bien. Oui. Et il y a déjà sorti Bobine sans mêle, qui est le volume précédent, mais qu'on peut lire indépendamment les uns des autres.
Totalement. Des histoires qui sont indépendantes, mais qui se croisent aussi, voilà.
Alors, je sais qu'il y a le salon du livre et de la presse jeunesse qui se tient à Montreuil. Est-ce que vous y serez ou c'est pas d'actualité?
Oui, j'y serai. J'y serai le samedi matin sur le stand de Flammarion avec Marie Voyelle, la talentueuse dessinatrice de Chat en bas. Donc, il sera aussi là pour faire des dédicaces et des dessins. Et je serai là le samedi 3 décembre de 10h30 à 12h30.
Eh bien, c'est noté. On se donne rendez-vous au Salon du Livre et Presse Jeunesse de Montreuil qui se tient donc le premier week-end, enfin, c'est à cheval entre novembre et décembre. C'est l'occasion de se faire de belles idées cadeaux pour les fêtes de fin d'année. Hein. Des cadeaux qui sont pas trop chers, qui sont pas trop consommateurs. Enfin, c'est vraiment des idées de cadeaux intelligentes hein, que sont les livres. Ouais. Et c'est l'occasion aussi de vous croiser, vous et votre illustratrice Marie Voyelle, et faire un cadeau très personnalisé, parce que quand on rencontre son autrice ou son illustratrice, eh bien on a vraiment un cadeau qui nous appartient, qui est vraiment unique, et c'est l'occasion aussi d'échanger, parce que je sais que les écrivains aiment bien échanger avec leurs lecteurs. C'est un bon moment à passer avec ses lecteurs. C'est formidable. Enfin, moi, je sais que j'aime beaucoup parler avec les auteurs, et les auteurs, je crois, qu'aiment beaucoup parler avec leurs lecteurs. Et c'est une sortie à flammarion-jeunesse.fr, et puis on attend avec impatience d'autres ouvrages qui parlent peut-être d'écologie ou d'autres sujets, en tous les cas, qui interpellent, qui font réfléchir. Merci à vous, Marie Pavlenko, et à très bientôt. Au revoir.
Merci, Laurence. Au revoir.
Et on se quitte avec Charles Darwin et sa citation la plus connue: les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. On médite dessus, on se laisse une semaine et en attendant, on va écouter Sabrina avec son émission Au cœur de l'assaut. Merci encore pour votre fidélité, merci à Francky pour la technique. Belle journée, au revoir.
De France.
Écoutez IDFM
sur 98 FM. IDFM,
toujours plus proche de vous.